RFI, grand reportage.
La dernière guerre dans le Haut-Karabakh aura duré 44 jours et fait des milliers de morts dans les deux camps. Entré en vigueur le 10 novembre, le cessez-le-feu a été violé en fin de semaine dernière. Il avait acté la déroute de l'armée arménienne et accordé d'importants gains territoriaux à l'Azerbaïdjan. Désormais, la seule route qui relie cette république autoproclamée du Haut-Karabakh à l'Arménie, le corridor de Latchin, est surveillée par les Russes. Depuis la fin des hostilités, une majorité des 150 000 habitants est revenue sur place. Au Karabakh, survivre après la guerre, c'est un grand reportage d'Anastasia Becchio et Julien Boileau.
Il tue le temps dans le hall enfumé de l'hôtel Arménie en plein centre de Stepanakert. Des dizaines d'hommes au regard triste, au dos voûté, venus chercher la trace de leur fils disparu à la guerre. Valera Manoukian tire nerveusement sur sa cigarette. De l'autre main, il égrène les perles de son chapelet pour calmer ses nerfs, précise-t-il.
Il y a beaucoup de disparus. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à retrouver tous les corps. Je ne sais pas si on va arriver à retrouver notre fils. Mais c'est très important pour moi qu'il parvienne à retirer le corps du champ de bataille pour pouvoir l'enterrer. Je ne dors plus, mes nerfs sont à vif, mon cerveau est embué. Je ne sais pas quoi faire, comment faire. C'est dur. Ici, il y a beaucoup de parents. Ils sont tous comme moi. Ils cherchent tous leurs enfants.
Valera Manoukian sait que son fils Narek, 28 ans, militaire de carrière, est mort le 5 octobre dans la région de Djebrail. C'est un survivant des combats qui lui a raconté. Cinq jours plus tard, ce père de trois enfants qui vit et travaille en Russie arrivait en Arménie. Yerevan d'abord, pour laisser son empreinte ADN à la morgue, puis Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, au plus près des champs de bataille. La direction de l'hôtel Arménie a ouvert ses portes gratuitement aux parents de portée disparue. À la tombée de la nuit, devant le bâtiment, les pères se réunissent en groupe autour d'hommes en uniforme, porteurs de quelques bribes d'informations.
Ils ont identifié 5 corps, 5 personnes, et ils en ont retiré 45. Ce sont des garçons nés en 2000, 2001 et 2002. Ils ont 19, 20, 21 ans. Ils se sont battus pour notre terre, pour la patrie. Je n'incrimine personne. À quoi ça servirait? Ça ne les fera pas revenir à la vie. Oui, il y a des gens qui portent une responsabilité pour ce qui s'est passé. Mais ça, ce n'est pas le moment d'en parler. D'abord, il faut enterrer nos enfants, les rendre à la terre.
Au ministère des situations d'urgence de Stepanakert, le retour des corps de soldats morts au combat est l'une des priorités du moment. Les secouristes prennent part aux opérations de recherche des portés disparus, comme le raconte Unanta Dévotion, porte-parole de l'institution.
Les négociations se font entre le comité international de la Croix-Rouge, la force de maintien de la paix russe et les forces armées de l'Azerbaïdjan. Nos secouristes mènent un travail héroïque, ils travaillent sans répit, nuit et jour. Les corps sont en très mauvais état, c'est effrayant à décrire. Depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui, plus de 600 corps nous ont été transmis. Hier c'était 19 et aujourd'hui 38.
La petite morgue de Stepanakert voit défiler toute la journée des personnes à la recherche de leurs proches. Depuis qu'il a été soigné pour une blessure par balle, puis démobilisé, Nver Vardanian, 32 ans, frappe à toutes les portes pour tenter de retrouver la trace de ses parents, qui vivaient près de Hadrout, dans le sud, une région où les combats ont été particulièrement meurtriers.
Jusqu'au 10 octobre, on se parlait régulièrement au téléphone, mais depuis, je ne les retrouve pas. J'ai fait tous les hôpitaux, mais on m'a dit qu'ils n'avaient aucune information sur eux. Je suis aussi allé à la Croix-Rouge, et maintenant, j'ai décidé de venir voir ici.
Dans les couloirs au mur blanc, une dame âgée est au bord du malaise. Depuis des semaines, elle cherche son fils, 27 ans. Elle a apporté d'innombrables documents, parmi lesquels son certificat de naissance et une photo. En blouse blanche, les employés de la morgue la font asseoir et lui donnent des calmants. Dans un même geste, l'une des jeunes femmes se retourne et prend à son tour une pilule. La pression est très forte, raconte Tatev Mnatsakanyan.
Chaque jour, on a des parents qui viennent ici. Ils cherchent leur enfant. À vrai dire, c'est très difficile à vivre, parce que nous partageons leur malheur et leur douleur. Et le plus dur, c'est que nous n'avons pas de réponse à de nombreuses questions, parce que nous avons peu d'informations. Il peut y avoir des personnes pour lesquelles nous avons des informations précises, mais pour la plupart des corps, nous n'avons rien.
Devant la morgue, un petit groupe d'hommes fume en silence. Un père de famille confie que leur fils faisait partie d'un détachement de 72 soldats disparus dans le secteur de Martouni le 11 octobre. Les secouristes viennent d'extraire 18 corps qui doivent être ramenés ici. S'ils ne sont pas identifiables, ils seront envoyés à Erevan pour une expertise médico-légale. Le lendemain, à l'épicerie de Berdachen, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Stepanakert, c'est l'émoi. Deux des corps retrouvés hier ont pu être identifiés. Il s'agit de jeunes du village.
Dans notre village, on a 7 jeunes portés disparus depuis les premiers jours de la guerre. On espérait encore qu'ils rentrent sains et saufs. Mais hier, les secouristes ont extrait des corps et les pères des portés disparus ont été appelés à la morgue de Stepanakert. Ils en ont reconnu deux. L'un avait dans sa poche son permis de conduire. L'autre a pu être identifié grâce à ses vêtements.
Le village de 2000 âmes, situé à l'extrémité est du Haut-Karabakh, a payé un lourd tribut à ces 44 jours de guerre. 21 jeunes soldats ont péri, 8 autres ont été grièvement blessés. La famille d'Eren Abrahamian est en deuil. Son fils, Harout, 32 ans, père de 4 enfants, a été tué le 28 octobre sur le front sud-est. Dans un coin du salon, plongé dans la pénombre, sur une étagère, des bougies brûlent devant les photos du jeune homme. Près du poêle, l'épouse et la sœur du défunt ont les yeux baignés de larmes. Cette dernière est sans nouvelles de son mari, Slavik Avagian, 36 ans, qui commandait un bataillon sur le front sud.
On est sûr à 90% qu'ils sont rentrés dans un territoire où il y avait des combats. Ils avaient été appelés en renfort pour aider une autre unité, mais ils sont tombés dans une embuscade. Ils se sont battus pendant près d'une heure. Pendant tout ce temps, mon gendre était en liaison radio avec son commandant de régiment. Mais au bout d'une heure, la connexion a été coupée.
Après la visite à la famille Abrahamian, l'épicière, le sapeur Pogossian, décide de se rendre au bout de la rue, dans ce qui était encore il y a peu la grande maison des beaux-parents de sa fille. La propriété a été ravagée par un missile. Le sapeur n'avait pas trouvé le courage d'y retourner depuis la fin de la guerre et elle découvre un champ de ruines.
Vous voyez, tout a été détruit. Ça, c'était leur maison. Et ça, c'était leur voiture, toute neuve. C'est un missile, un smetch. C'est comme si la terre avait été entièrement retournée.
En contrebas, dans la même rue, Kamo Arajanian, vétéran de la guerre des années 90, répare son toit endommagé par un obus.
Le plus décevant, c'est qu'en plus de tous ces morts, on a aussi perdu notre patrie. Lors de la première guerre, on avait aussi eu des morts, mais on avait gagné. 30 ans plus tard, les autorités n'ont pas pris la mesure de cette victoire, ce qui nous a mené à la situation actuelle. Au final, on a perdu notre patrie, c'est très triste. Et la question qui se pose maintenant, c'est qu'allons-nous devenir ?
Au deuil et aux destructions s'ajoute l'inquiétude pour les habitants de Berdachen. Les lignes des militaires azerbaïdjanais, qu'on appelle ici les Turcs, ont avancé de 5 km. Elles sont désormais toutes proches. Des champs cultivés par les habitants de Berdachen se retrouvent désormais en Azerbaïdjan, se désole Loussaper Pogossian, de retour dans son épicerie.
Que pouvons-nous faire? Il ne nous reste plus rien pour vivre. Nos terres arables sont restées de l'autre côté. Or, de nombreux habitants ont cultivé ces terres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici, dans ces montagnes? Comment pourrons-nous subvenir à nos besoins? On leur a donné toutes nos terres. Ils entrent chez nous et ils décrètent. Tout ça, c'est à nous. Et ils viennent avec leurs fusils automatiques et tracent eux-mêmes leurs frontières. Et nous, on doit supporter tout ça.
Venu acheter quelques produits, nous n'évanions et rentrés de Erevan il y a 3 jours seulement.
Tout le monde est anéanti par le chagrin. C'est difficile, on est comme des orphelins. On se pose beaucoup de questions. Comment allons-nous vivre ici? Que va-t-il se passer demain? Nous pensons qu'il y aura encore une guerre parce que ça n'est pas possible de vivre comme ça, parce qu'ils ont tué nos enfants et on a tué les leurs. Comment pouvons-nous maintenant vivre avec eux comme si de rien n'était? Je ne peux pas l'imaginer.
Et même si on pense plus globalement, quand on vient par exemple de Yerevan, après Goris, quand on atteint Latchin, on sait qu'ils sont tout près et on sent l'inquiétude qui monte. Si les Turcs sont à Chouchi, comment peut-on vivre tranquillement à Stepanakert ?
Chouchi, ou Choucha en azéri, se trouve à une dizaine de kilomètres en surplomb de Stepanakert. Un drapeau de l'Azerbaïdjan a été déroulé sur la forteresse qui domine la vallée. La route qui mène à la ville est fermée par une barrière de tôle. Devant, les forces de maintien de la paix russes ont installé un poste d'observation. En amont, des sacs de sable ont été posés en travers de la route pour ralentir la circulation. Combien de personnes dans la voiture ? Tout va bien ? Demande un militaire russe aux automobilistes. Quelques lacets plus bas, après avoir passé deux autres postes de contrôle, un russe et un arménien, la ville de Stepanakert apparaît. Anaït Khatchatourian, qui a dû fuir Bakou en 1988, balaye l'une des places principales de la ville. Il suffit de lever la tête pour voir les relais téléphoniques sur les hauteurs de Choucha.
On est entouré d'Azerbaïdjanais. Là-haut, c'est Chouchi. Ce sont désormais des Azerbaïdjanais qui y vivent. Maintenant, on ne balaye plus que deux jours par sécurité. D'habitude, on sortait vers 4h du matin, mais là, comme il n'y a pas d'éclairage public et qu'il fait nuit, eh bien, on a peur. C'est dangereux de vivre quasiment sous un même toit avec eux. C'est horrible. Notre Karabakh est devenu encore plus petit. Qu'est-ce qu'il en reste ? Mais bon, on verra. J'espère que tout va s'arranger, mais eux nous disent que tout ira bien.
Eux, ce sont les forces de maintien de la paix russes. Deux imposants véhicules de déminage attendent devant l'hôtel où loge une partie de la hiérarchie de la mission qui compte 1960 hommes. Rassurés par la présence de ces militaires censés veiller au maintien du cessez-le-feu, des milliers de familles sont rentrées d'Arménie où elles étaient parties se réfugier. Chaque jour, plusieurs autocars arrivent à Stepanakert. Devant un empilement de sacs à carreaux, Galina Melkomian attend ses fils.
Les soldats de la paix, ils sont super, ils ont aidé les gens à rentrer chez eux. J'habite dans le Haut-Karabakh depuis 1982, près de Krasny Bazar, mais ça a été pris par l'Azerbaïdjan. J'ai perdu ma maison. Ici, j'ai mes enfants. J'étais partie à Yerevan, mais ils m'ont dit de venir et me voilà. Je n'ai nulle part d'autre où aller.
Relativement épargnée durant la guerre, l'école numéro 2 de Stepanakert a été la première à rouvrir ses portes. Ses sous-sols ont servi d'abri à des dizaines d'habitants du quartier. Dans le petit bureau de la conseillère pédagogique Mariana Balkunz, les demandes d'inscription s'accumulent. Chaque jour, des enfants rentrent, d'autres arrivent de ville ou village désormais aux mains des forces azerbaïdjanaises.
J'ai bon espoir que tous nos élèves vont revenir. Les chiffres le montrent d'ailleurs. Chaque jour, le nombre d'inscriptions augmente. Je suis persuadée que d'ici la fin du semestre, tout le monde sera rentré. Je pense qu'il est primordial en ce moment que le corps enseignant fasse un effort particulier pour soutenir les écoliers qui ont perdu leur maison, qui sont partis sans leurs vêtements, sans leurs cartables, leurs livres, leurs cahiers et qui viennent dans notre école.
Dans le bureau de la directrice, au mur bleu-vert, contre la bibliothèque, un grand écran de télévision encore dans son carton d'emballage qui porte les initiales MC pour Force de maintien de la paix. Un cadeau des Russes, explique Laura Martirossian. Le jour de la réouverture de l'école, elle a organisé une cérémonie en présence de responsables militaires russes. L'occasion de les remercier pour leur aide, même si pour cette professeure d'histoire, le rôle de Moscou suscite quelques interrogations.
Ça m'étonne moi-même de prononcer ces mots parce que je considère la Russie comme une grande puissance. Mais je ne comprends pas comment le président russe a pu laisser venir Erdogan jusqu'au Caucase. Je n'ai pas peur de dire ça tout haut. Comment Poutine a-t-il pu laisser le président turc venir jusqu'à la frontière entre l'Arménie et l'Iran? C'était le rêve des Turcs depuis un siècle. Pourquoi les Russes ont-ils permis cela? Je n'arrive pas à le comprendre.
Avec le retour des habitants qui avaient fui les bombardements, la vie quotidienne reprend son cours. Le marché revit, les vendeurs ont retiré les bâches de leurs étals, d'autres réparent une toiture endommagée ou des vitres soufflées par les explosions. Mais le cœur n'y est pas. Au fond de la halle, Donara Gasparian fait cuire un pain traditionnel fourré aux herbes sauvages.
Les gens reviennent doucement. On s'habitue peu à peu à cette nouvelle vie. Mais personne ne sait à quoi s'attendre avec les Turcs. Avant la guerre, on ne fermait jamais nos portes la nuit. Mais maintenant, on a peur. On a peur que des intrus rentrent dans nos maisons. Je ne sais pas. On recommence à peine à sourire.
Quelques allées plus loin, Irina Sarofanian vend des vêtements et des chaussures. Son petit magasin a été épargné par les bombardements.
Le commerce ne va pas très fort. Beaucoup de gens ne sont pas encore rentrés de Yerevan. Les gens ont peur. Moi, au moins, j'ai un appartement. Mais il y a tellement de personnes qui se retrouvent sans rien. Où peuvent-ils loger, tous ces gens de Hadrout, des villages de la région d'Askeran? Où vont-ils vivre?
Chaque jour, les mêmes scènes se répètent devant les bureaux de poste. Des dizaines de personnes agglutinées devant l'entrée. Elles viennent s'inscrire pour pouvoir bénéficier de l'aide financière octroyée par les autorités locales. 68 000 drams, une centaine d'euros par habitant. Dans la file d'attente, Vago Vanissian, 37 ans, qui a combattu comme volontaire pendant les 44 jours de guerre. Il vient toucher l'aide en attendant de retrouver un emploi.
La file d'attente est grande, mais qu'est-ce que vous voulez? Ces choses-là arrivent après une guerre. Il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas de toit. Personnellement, ça me fait mal au cœur de voir autant de personnes faire la queue. Je préférerais les voir faire la queue pour faire des tours de manège à leurs enfants plutôt que les voir ici recevoir de l'aide. On ne veut pas d'aide, on veut juste vivre.
Devant la mairie de Stepanakert, une autre file d'attente s'est formée. Tous les jours, des milliers de sacs d'aide alimentaire y sont distribués. Tania Voskanian, 48 ans, a dû fuir Choucha quelques jours avant l'arrivée des forces azerbaïdjanaises.
J'ai quitté la ville lorsqu'on a reçu l'ordre d'évacuer. Mais personne ne se doutait qu'on perdrait Choucha. D'ailleurs, je n'ai pas pris de vêtements avec moi. C'est un cauchemar. Que dire d'autre? On est devenus des SDF, on est à la rue.
À l'intérieur de la mairie, le hall d'accueil est envahi de palettes de conserve. Le maire, David Sarxian, supervise les opérations. Son cabinet à l'étage a été endommagé par les bombardements. Il reçoit dans une petite salle du rez-de-chaussée. Pour l'édile, la priorité est le retour des habitants à la vie d'avant-guerre.
Il y a des problèmes avec le logement, mais on a lancé un programme pour construire des maisons pour ceux qui n'en ont plus. Ça prendra un an et demi environ, mais c'est important de montrer au monde que la vie reprend, qu'il n'y a plus la guerre. On a beaucoup de projets, plusieurs pays nous aident. Hier, on a eu la visite d'Arméniens de France. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous aider à développer nos petites entreprises et nous-mêmes. Nous allons tout mettre en œuvre pour donner du travail aux gens.
Dans le hall d'entrée, autour des tables disposées le long des murs, les employés de la mairie sont emmitouflés dans leurs manteaux. Aux fenêtres, les bâches en plastique remplacent les vitres soufflées par les explosions. Blotti près d'un convecteur d'appoint, Sylva Grigorian, employé municipal, ne rêve que d'une chose, retrouver sa ville calme et insouciante d'avant la guerre.
Ce qui nous préoccupe le plus, ce ne sont pas toutes ces difficultés matérielles, ces problèmes du quotidien, mais c'est de retrouver notre tranquillité d'esprit. Ici, pour nous, c'était le paradis sur terre, mais maintenant, on ne sait plus à quoi s'attendre, qui va venir, qu'est-ce qui va voler au-dessus de nos têtes. On a perdu la confiance qu'on avait en nous. Aujourd'hui, ils sont à Chouchi. Demain, il pourrait être à Stepanakert, qui sait? Et même s'il y a les forces de maintien de la paix, on n'a pas d'assurance qu'ils ne viendront pas jusqu'ici. Je ressens de la joie quand je vois toutes ces lumières dans les immeubles le soir, que je vois la circulation automobile, tous ces gens dans la rue. Mais les visages ne sont pas encore ce qu'ils étaient. Ces yeux, cette douleur, ces airs pensifs, avant, il n'y avait pas ça.
Au Karabakh, survivre après la guerre, un grand reportage d'Anastasia Becchio et Julien Boileau, réalisation Pierre Chaffanjon.